Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Un record, plus de 300 000 nouveaux cas de Covid chaque jour en moyenne. Le pic épidémique se rapproche et les admissions en réanimation se stabilisent. Des services où la moitié des patients, 47%, sont obèses selon le ministère de la Santé. Une population à risque, encore plus isolée, stigmatisée même par la pandémie. Yasmine Akatou.
Depuis 2 ans, Catherine vit chaque jour dans l'angoisse. À 55 ans, malgré ses 3 doses, son obésité l'oblige à vivre isolée pour éviter une infection au Covid. Le quotidien est devenu oppressant.
De temps en temps, on va faire des courses comme tout le monde. Je vous dis pas le stress, quoi. C'est nettoyage du caddie. On sort du magasin, on se remet du gel. On arrive à la maison, je rince tout. Ça prend un temps fou. Hein. Les amis, les sorties, on peut pas se réunir. Qu'on se sent désociabilisé, quoi.
Le moral de Catherine est au plus bas ces dernières semaines. La santé mentale des personnes obèses a été ébranlée par la pandémie. Alexandra Tubiana, psychologue spécialiste des troubles alimentaires, l'a constaté.
On a tellement insisté sur c'est les gros qui sont les plus à risque que toute personne en situation d'obésité est dans un état de stress important, en se disant moi j'ai plus de risque que les autres. Et donc, une grande difficulté à gérer ce stress et donc une aggravation des troubles.
Il faut ajouter à cela la crainte de ne pas pouvoir être correctement soigné, dit la psychologue. Souvent, dans les hôpitaux, les lits, les tensiomètres ou les lèvres-personnes ne sont pas adaptés aux obèses.
Yasmine Akatou.
Et pour protéger davantage cette population, le gouvernement va ouvrir la campagne de rappel vaccinal aux 12-17 ans, uniquement pour les adolescents qui vivent avec des personnes à risque.
Un soutien élargi, voilà ce que propose Jean Castex au secteur de l'hôtellerie-restauration. Pendant 2 mois, certaines entreprises pourront recevoir une aide équivalente à 20% de leur charge salariale. Carole Ferry, ce coup de pouce doit compenser les pertes liées au protocole sanitaire.
Et oui, il y a notamment le télétravail qui a un impact non négligeable sur l'hôtellerie-restauration. Beaucoup moins de déjeuners le midi, par exemple. Mais aussi l'interdiction des pots en entreprise qui plombe le secteur de l'événementiel. Alors le gouvernement avait annoncé une prise en charge des coûts fixes pour les professionnels qui perdent au moins la moitié de leur chiffre d'affaires. Là, Jean Castex a décidé d'aller encore plus loin. L'État va prendre en charge 20% du salaire des employés des entreprises qui perdent au moins 30% de leur chiffre d'affaires. C'est exactement les curseurs que réclamaient les professionnels et qui vont un peu plus loin que ce qu'avait proposé Bercy. Enfin, pour les entreprises les plus touchées, celles qui perdent au moins 65% de leur chiffre d'affaires, Matignon annonce une mesure supplémentaire, l'exonération totale des charges patronales, des mesures qui concernent les sociétés de moins de 250 salariés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, mais aussi de l'événementiel et des agences de voyage.
Carole Ferry.
L'heure du grand oral pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État prend la parole ce matin au Parlement de Strasbourg.
Un discours pour présenter les axes de la présidence française de l'Union européenne. Salaire minimum, taxe carbone aux frontières ou réforme de l'espace Schengen. L'occasion aussi d'imposer ses thèmes de campagne à 3 mois de l'élection présidentielle, même si Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat. Un calendrier national qui inquiète les parlementaires européens, Agathe Cherki.
Oui, plusieurs eurodéputés le promettent. Ils rappelleront à Emmanuel Macron tout à l'heure que l'agenda politique français ne doit pas l'empêcher d'avancer sur son agenda européen. C'est une crainte que beaucoup d'eurodéputés partagent, à l'image de l'écologiste allemande Anna de Parnay-Grunenberg.
Si on est très réaliste, la présidence française, vu qu'elle ne peut travailler que 3 mois sur 6, ne va pas faire avancer les dossiers énormément.
Et les inquiétudes sont particulièrement vives pour les dossiers les plus délicats politiquement. Le député roumain chrétien-démocrate Marian Marinescu comptait par exemple sur la France pour faire avancer un texte majeur pour le trafic aérien en Europe.
Je crois qu'ils vont éviter d'avoir des décisions qui peuvent affecter le président Macron dans sa campagne électorale. Par exemple, le dossier style unique, c'est un dossier qui peut provoquer des grèves.
Un espoir quand même au Parlement. Tout le monde a bien conscience qu'Emmanuel Macron va profiter de la présidence française du Conseil pour renforcer son image pro-européenne. Et certains eurodéputés y voient une aubaine et se disent qu'au moins, dans les mois à venir, en France, on parlera d'Europe et qu'en Europe, eh bien, la France a tout de même intérêt à engranger quelques succès.
Agathe Cherki, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Une attaque russe en Ukraine est possible à tout moment. C'est l'alerte lancée par les États-Unis après des manœuvres militaires en Biélorussie.
Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain est en Europe justement cette semaine et Anthony Blinken veut encore laisser sa chance à la diplomatie.
Oui, un déplacement de dernière minute face au renforcement du déploiement militaire russe. Tout à l'heure à Kiev, Anthony Blinken renouvellera le soutien des États-Unis au président Zelensky. Puis il rencontrera son homologue russe vendredi à Genève pour tenter de trouver une porte de sortie diplomatique. Les deux hommes se sont déjà parlé au téléphone. Hier, Sergueï Lavrov attend des réponses concrètes aux demandes de Moscou, notamment sur le non-élargissement de l'OTAN. Un sujet dont les États-Unis ne veulent pas entendre parler. Cette impasse dans les négociations inquiète Washington, qui s'est exprimée par la voix de la porte-parole de la Maison-Blanche.
C'est une situation extrêmement dangereuse. La Russie peut à tout moment lancer une attaque en Ukraine. Le choix revient à Vladimir Poutine et les conséquences seront massives s'il n'opte pas pour la voie diplomatique.
Alors toutes les options sont sur la table, assure la Maison-Blanche. Elles seront discutées à Berlin demain, où Anthony Blinken y rencontrera les alliés occidentaux. L'exclusion de la Russie du système financier international SWIFT est toujours évoquée. Mais Washington veut privilégier la voie diplomatique et le répète depuis plusieurs semaines. C'est bien Vladimir Poutine qui a créé cette crise en amassant des troupes à la frontière ukrainienne.
Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Des troupes et des tanks transportés en train jusqu'en Biélorussie. Les images sont assez impressionnantes. Ça, c'est en 2022. 4500 ans avant notre ère, les peuples employaient une autre méthode pour faire la guerre.
Et oui, vous avez même le bruitage, puisqu'on va parler de l'âne.
Vous reculez devant rien.
Un âne hybride, bien sûr, il faut joindre la parole au son utilisé. Cet âne hybride, il a été utilisé par les Mésopotamiens sur les champs de bataille. C'est le premier exemple d'une manipulation volontaire des espèces, c'est très sérieux. Et c'est une découverte d'une équipe du CNRS que vous raconte Zoé Pallier.
Ce sont des ânes plutôt trapus apparus il y a plus de 4500 ans. Les Mésopotamiens les utilisaient lors des combats pour tirer leurs chars. Ces équidés, appelés kunga, avaient pour mère une ânesse domestiquée et pour père un âne sauvage d'une autre espèce. C'est ce qu'ont découvert par des analyses ADN des chercheurs de l'Institut Jacques Monod, dont fait partie Eva Maria Geigel.
On a pu conclure que ces équidés-là sont des hybrides faits par l'être humain parce qu'on savait aussi qu'ils étaient stériles. Les Mésopotamiens, ils ont dû observer un accouplement entre émions, donc un âne sauvage, avec une ânesse domestiquée. Et donc, ils ont commencé à vraiment industrialiser cette pratique.
Car le kunga héritait des qualités de ses deux parents.
On peut supposer que ces kunga, ils étaient plus contrôlables, parce que la mère était une ânesse domestiquée, et qu'ils étaient plus rapides, parce que les pères étaient un émion.
Mais ce génie génétique imaginé à l'âge de bronze n'a finalement pas tenu face à l'arrivée du cheval domestique qui se reproduisait un peu plus facilement.
Voilà pour le récit étonnant de Zoé Pallier.
Effectivement, c'était le journal de Romane Oquet. Merci beaucoup Romane.